C'est l'heure du journal avec vous, Magali Homo. Bonsoir Magali.
Bonsoir à tous. Un dimanche de Pâques à l'ombre de la guerre, le pape François a livré un brillant plaidoyer pour la paix lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Il évoque l'Ukraine martyrisée, les catholiques sur place se mobilisent. Reportage. Les deux tiers des soutiens à Jean-Luc Mélenchon, interrogés par la France Insoumise, choisissent de ne pas voter pour Emmanuel Macron. C'est le résultat d'une consultation en ligne. Après les femmes, c'était au tour des hommes de se lancer dans l'enfer du Nord, un nom qu'a très bien porté la course du Paris-Roubaix. Cet après-midi, le soleil était au rendez-vous, la poussière aussi.
France Inter.
La place Saint-Pierre au Vatican, baignée de soleil, noire de monde. Plus de 100 000 personnes sont venues écouter le message de Pâques et recevoir la bénédiction Urbi et Orbi de François. Aujourd'hui, le pape a prié pour la paix. Bruce de Galzin.
C'est un pape meurtri, mais aussi fatigué, qui s'est adressé au monde. Le Béninois Clément-Marie Bonou, franciscain au Cameroun, est très sensible à l'émotion du pape.
Chaque fois quand il parle de paix, il y a un applaudissement, parce que on partage ce que vit le pape. Le pape est préoccupé par la paix. Mais tout le monde a peur.
François appelle les peuples à réclamer la paix depuis nos balcons dans les rues, dit-il. Des paroles qui ont marqué Philippe et sa famille. Ils vivent aujourd'hui à Rome après avoir passé 4 ans en Ukraine.
Je pense que le peuple doit descendre dans la rue, effectivement. Une grande manifestation pacifique dans le monde ferait beaucoup de bien à ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, politiquement, c'est très difficile d'agir. Il faut faire très attention puisqu'il y a des risques naturellement mondiaux, des risques nucléaires.
Le pape interpelle en effet les gouvernants avec cette question inquiétante, dit-il. Allons-nous mettre fin à l'humanité, ou l'humanité renoncera-t-elle à la guerre? François n'a pas non plus oublié les autres conflits, rappelle Katia qui vient de Palerme.
La guerre en Ukraine est très ressentie parce qu'elle est à l'intérieur du continent européen, plus proche de nous. Mais on ne doit pas oublier les autres peuples, les autres pays qui souffrent depuis si longtemps et pour lesquels on ne fait pas grand-chose. Peut-être que le moment est arrivé de penser aussi à eux.
Et le pape de citer Jérusalem, le Yémen, Myanmar ou encore le Sahel. Place Saint-Pierre à Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Des appels à la paix alors qu'en Ukraine, le déluge de feu se poursuit. La ville de Kharkiv, dans le nord-est, touchée aujourd'hui par une série de frappes. 5 personnes au moins ont perdu la vie selon les secours. Au petit matin, la région de Kiev, une nouvelle fois frappée. Moscou a revendiqué, comme hier, comme avant-hier, la destruction d'une usine militaire. Dans ces villes, les destructions sont massives. À Borodianka, au nord-ouest de la capitale, les immeubles sont à terre, les bâtiments publics détruits. Là-bas, on manque aussi de nourriture. Alors, pour venir en aide à ceux qui sont restés, les églises se mobilisent. Reportage Jérémy Tuile et Faustine Calmel.
Au milieu des décombres du centre culturel de Borodianka, une vieille femme pousse son chariot branlant. Dessus, une boîte de conserve de tomates et un bocal de gros cornichons qu'elle vient de récupérer au stand de Sergueï, volontaire chrétien de Berdichiv, 160 km plus au sud.
Nous sommes venus car nous avons entendu que c'est la ville la plus détruite du pays. Nous distribuons la nourriture et nous soutenons aussi moralement ces personnes. Mes sentiments sont confus. J'étais angoissé et je m'inquiétais beaucoup pour les gens d'ici. Maintenant, nous voulons apporter la paix aux habitants.
Après un mois d'occupation russe, Nina est ressortie de chez elle. La grand-mère remplit son panier, du pain en tranches, des biscuits, tout ce qui peut se consommer froid et facilement.
Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Dieu merci, nous avons le gaz et les produits amenés par les volontaires. Mais aucun magasin n'est ouvert.
En longeant des devantures fermées, Nina nous emmène un peu plus loin, devant l'église orthodoxe. Au pied de ce bâtiment couleur ocre, les habitants font la queue sur plusieurs dizaines de mètres. D'autres bénévoles distribuent des vivres, conserves, citrons, confits. Sous une tente, des vêtements chauds sont à disposition. Depuis ce matin, la neige tombe à nouveau sur la région de Kiev.
Faustine Calmel et Jérémy Tuile. Non, la ville n'est pas tombée. Le premier ministre ukrainien sur la chaîne américaine ABC, il affirme que les derniers défenseurs ukrainiens de Mariupol combattront jusqu'au bout. La Russie, un peu plus tôt, avait lancé un ultimatum aux soldats qui résistent toujours sur place. Ultimatum semble-t-il ignoré. Volodymyr Zelensky, lui, s'exprime sur CNN. Le président ukrainien affirme avoir invité Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour constater de ses yeux que les forces russes commettent un génocide, terme que son homologue français ne veut pas employer. Emmanuel Macron au repos aujourd'hui, ou du moins rien de prévu à l'agenda en ce dimanche de campagne. Rien non plus du côté de sa rivale. Marine Le Pen s'est défendue ce matin d'être climato-sceptique. Elle répondait aux accusations de son adversaire hier à Marseille, l'accusant d'être une incompétente qui veut détruire des éoliennes. La candidate d'extrême droite promet de ne pas sortir de l'accord de Paris sur le climat si elle est élue le 24 avril. À une semaine, donc jour pour jour de ce second tour de la présidentielle, les deux finalistes courtisent les électeurs de gauche, mais seront-ils réellement séduit? C'est là toute la question. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon n'a pas redonné de consigne de vote aujourd'hui après une consultation de ses soutiens. 215 000 participants. Selon les résultats, près de 38% voteront blanc ou nul. Le vote Macron arrive ensuite avec 33% devant l'abstention avec près de 29%. L'option Le Pen n'était pas proposée. Le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, n'est pas surpris.
On a effectivement une majorité de blancs et d'abstention. Bon, moi, je crois que c'est absolument pas des lignes de fracture. En chacun de nous, je crois, il y a à un moment donné la volonté de faire barrage à l'extrême droite et se dire, bon, pour certains, bah, il faut aller jusqu'à voter Macron parce que c'est quand même le seul moyen qu'on a. Et d'autres se disent très certainement, Macron se débrouillera et on votera blanc en abstention parce que ça nous est impossible de mettre un bulletin de vote pour le président le plus inégal de la Ve République et qui, en plus de ça, a mené une politique très répressive. Encore hier, sur les manifestations qui ont eu lieu. La différence par rapport à il y a 5 ans, c'est qu'il y a eu 5 ans d'Emmanuel Macron et que malheureusement, il n'a pas été un barrage vis-à-vis de l'extrême droite. Au contraire, il a mis les thèmes de l'extrême droite sans arrêt dans le débat public sur les questions d'immigration, sécuritaire, identitaire, etc., discrimination, et puis avec des mesures qui ont fait le quinquennat le plus inégal de la Ve République.
Ce vote interne à la France Insoumise, on y revient juste après le journal dans l'émission Un dimanche de campagne. Ils ont mangé la poussière sur plus de 200 kilomètres. Les cyclistes de l'enfer du Nord, Fanny Le Chevestrier, bonsoir.
Bonsoir Magali.
Consécration pour le Néerlandais Dylan Van Baarle, une 119e édition du Paris-Roubaix, la plus rapide de son histoire.
Eh oui, 45,8 km/h, c'est à peine croyable. Jamais, effectivement, les coureurs de l'enfer du Nord n'avaient été aussi rapides pour couvrir les 257,5 km de course et rallier donc le paralysie du Vélodrome de Roubaix. Et au final, vous l'avez dit, victoire du Néerlandais de l'équipe Ineos, Dylan Van Baarle. Il offre aux Britanniques le premier pavé de leur histoire. Surtout, c'est vraiment une juste récompense pour ce coéquipier de luxe qui avait échoué d'un boyau face à Mathieu Van Der Poel lors du dernier Tour de Flandre. Cette fois-ci, Van Der Poel a lui craqué face à la dureté de la course. Le podium est complété par le Belge Wout Van Aert et le Suisse Stefan Kung. Toujours pas de podium en revanche pour les Français, mais vraiment une superbe course tout de même pour Adrien Petit, 6e, et Laurent Pichon, 8e.
Fanny Le Chevestrier, merci beaucoup. Un dimanche de football également ce soir, le classico entre le Paris Saint-Germain et Marseille, match qui viendra clôturer la 32e journée de Ligue 1. PSG leader à une large avance sur les Marseillais, deuxième au classement. Coup d'envoi, 20h45.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
La météo maintenant, c'est avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Ce soir et cette nuit, une perturbation essentiellement nuageuse va onduler sur la Bretagne. Vous allez la retrouver demain matin du Poitou-Charentes à la Normandie, en passant par la région Pays de la Loire. À noter un ciel bâché entre l'Aquitaine et l'Occitanie. Retour d'un ciel variable en Bretagne et partout ailleurs, votre matinée restera bien ensoleillée. Peu d'évolution l'après-midi, vous retrouverez un ciel de traîne chargé et quelques averses entre la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne et de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais. Le soleil fera une belle résistance dans les autres régions. Les températures maximales vont baisser sensiblement, évoluant entre 14 et 23 degrés. N'attendez pas plus de 14 degrés à Brest, 16 à Biarritz, 17 à Rennes, prévoyez 18 à Nancy, 19 à Lille, Bordeaux et Toulon, 20 à Dijon, Lyon et Toulouse, comptez 21 à Paris comme à Marseille et Grenoble, et puis on ira jusqu'à 23 degrés à Perpignan.